L'air s'infiltre par les hublots situés près du plafond, éclairant un lit double en forme de flèche. Près de la tête de la couchette, une jeune femme vêtue d'une veste en jean est appuyée contre le mur en position assise, les cuisses écartées. Sa main repose sur un coussin rose. Elle regarde le vieil homme droit dans les yeux avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Il lui faut un moment pour comprendre que la femme est morte. Une pince en forme d'oiseau blanc retient ses longs cheveux noirs. Une colombe de la paix. Quand le vieux s'approche et touche sa joue, sa tête bascule en avant, un filet d'eau s'échappe de la commissure de ses lèvres et coule le long de son menton. Le mot « musique » signifie en réalité « l'art des muses » et trouve ses origines dans la mythologie grecque. Les neuf muses étaient toutes les filles du puissant Zeus et de Mnémosyne, déesse de la mémoire. La véritable muse de la musique, Euterpe, est habituellement représentée une flûte aux lèvres et son nom signifie « qui sait plaire ». Le don qu'on appelle musicalité n'a pas vraiment de définition communément acceptée. Certains ne sont pas en mesure de distinguer le changement de fréquence entre les notes, tandis que d'autres sont doués d'une mémoire extraordinaire et d'une oreille absolue qui leur permet de reconnaître une note en dehors de tout contexte. Bien des génies musicaux ont traversé l'histoire. Certains sont devenus très célèbres, comme Wolfgang Amadeus Mozart, qui fit le tour des plus grandes cours d'Europe dès l'âge de 6 ans, ou Ludwig van Beethoven, qui a composé ses œuvres majeures après être devenu complètement sourd. Le violoniste et compositeur de légende Niccolo Paganini naquit en 1782 à Gênes. Aujourd'hui encore, très peu de violonistes sont capables de jouer les œuvres rapides et complexes qu'il a composées. Jusqu'à sa mort, le musicien fut poursuivi par une rumeur selon laquelle il devait son exceptionnel talent à un pacte qu'il aurait conclu avec le diable. Chapitre 1. Une prémonition. Un frisson parcourt le dos de Pénélope Fernandez. Les battements de son cœur s'accélèrent et elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Peut-être à cet instant a-t-elle une prémonition de ce qui se passera plus tard dans la journée. Malgré la chaleur qui règne dans le studio, Pénélope ressent une sensation de fraîcheur sur le visage. Celle-ci persiste depuis qu'elle a quitté la loge de maquillage. On a appuyé une éponge humide contre sa peau pour y déposer du fond de teint, et on a détaché de ses cheveux la pince ornée d'une colombe pour les imprégner de mousse et accentuer le mouvement de ses boucles. Pénélope est présidente de la SFSF, l'association suédoise pour la paix et l'arbitrage. On la conduit en silence sur le plateau du journal télévisé où elle s'installe dans la lumière des projecteurs face à Pontus Salman, le PDG du fabricant d'armes Silentia Defense AB. Stéphanie von Sydow, la présentatrice, change de sujet, bat des cils en direction de la caméra et commence à parler des licenciements qui ont suivi l'achat de la société anonyme Bofors par le groupe de défense nationale britannique BEA Systems Limited. Elle se tourne ensuite vers Pénélope. Pénélope Fernandez, dans plusieurs débats sur le sujet, vous avez vivement critiqué la gestion des exportations d'armes suédoises. Récemment, vous l'avez comparé au scandale français de l'Angola Gate. Des politiciens de premier plan et des hommes d'affaires ont été inculpés pour corruption et trafic d'armes et condamnés à de lourdes peines de prison. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait eu une affaire de ce genre en Suède. Il y a deux interprétations possibles, répond Pénélope Fernandez. Soit nos politiciens fonctionnent différemment, soit c'est notre système judiciaire qui fonctionne différemment.
Vous savez très bien, dit Pontus Salman, que nous avons une longue tradition de...
La législation suédoise, l'interrompit Pénélope, interdit toute fabrication et exportation de matériel de guerre.
Vous faites évidemment erreur, dit Salman.
Paragraphe 3